Vous êtes à l'écoute de Conversations RH. Dans cette collection de podcasts, vous allez découvrir des éclairages d'experts passionnants qui vous apportent, chers auditeurs, des réponses concrètes aux problématiques liées aux ressources humaines et à la vie de l'entreprise. Alors n'hésitez pas à découvrir les épisodes des différentes saisons de Conversations RH dans lesquelles nous traitons les ressources humaines sous des angles sociétaux, psycho et techno. Comment faire face au brownout de vos équipes? Les recrutements dans le métaverse sont-ils possibles? Quels sont les bons tips pour les candidats et les recruteurs? Ou encore comment améliorer l'attractivité marque employeur? Toutes ces réponses sont dans Conversations RH. Belle écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur Conversations RH, le podcast d'échanges éclairés entre professionnels RH. Et Conversations RH, vous le savez maintenant, ce sont des échanges d'experts qui, à ce micro, nous partagent leur vision de l'évolution des pratiques RH. Conversations RH, c'est un contenu qui vous est proposé par LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, management de transition et évaluation pour cadres et dirigeants. Allez, partons aujourd'hui dans le cœur d'un entretien passionnant dans lequel nous allons explorer cette vague verte, cette conscience environnementale et sociale qui est déjà très présente et qui va continuer de pénétrer chaque métier, chaque secteur. Alors, comment les cadres doivent se préparer à intégrer ces problématiques dans leur quotidien? Quel est le rôle de chaque professionnel dans une trajectoire d'impact positif? Quels sont les retours d'expérience très très concrets de grands groupes ayant basculé dans une stratégie RSE ambitieuse? Réponse dans cet épisode, au cours duquel j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Thomas. Bonjour Sylvie.
Bonjour, comment tu vas David?
Ça va très bien, tu es en duplex avec nous et ton rôle à toi Sylvie, c'est d'être la directrice RSE et des affaires publiques chez Lexmark sur la zone Europe, Afrique et Moyen-Orient. J'ai tout bon?
Tout bon, parfait.
Très bien. Également à distance, Raphaël Lommel. Bonjour Raphaël.
Bonjour David.
Raphaël, tu es responsable RSE du groupe Adecco France.
C'est tout à fait ça.
C'est tout à fait ça. Merci d'être avec nous. Et en plateau avec nous, Antonin Decosse. Bonjour Antonin.
Bonjour de vive voix David.
Bonjour de vive voix. Tu es directeur exécutif du cabinet LHH Recruitment Solutions. Merci d'être avec nous et ravi de cet échange. Écoutez, je pense qu'on est tous prêts. C'est parti pour Conversation RH sur le thème des cadres en phase avec les enjeux environnementaux. Une transition nécessaire. Merci à tous les trois d'être avec nous pour ce podcast qui va être très inspirant. En tout cas, je le dis en connaissance de cause parce que pour avoir préparé avec vous, pour avoir travaillé sur le sujet, il va y avoir plein d'informations très inspirantes et qui amènent nos pratiques, celles des cadres et des dirigeants, à évoluer. Raphaël, je rappelle que tu es responsable RSE groupe chez Adecco France. Comment on pourrait définir une démarche RSE?
Alors, pour définir une démarche RSE, je ne suis pas sûre qu'il y ait une seule et unique recette magique, ça se saurait. Après, je pense que l'important, c'est de bien comprendre dans quel écosystème on évolue en tant qu'entreprise, de bien comprendre, bien sûr, les enjeux qui sont liés à son secteur d'activité. Hein. Le poids du corps n'est pas forcément le même, pour prendre les exemples des personnes autour de la table, au sein de Lexmark et au sein d'Adecco. Donc ça, ça a un impact déjà fort. Mais je pense qu'il y a un point de départ important à avoir en tête, c'est de bien comprendre et pour se faire instaurer un dialogue avec ses parties prenantes, pour bien comprendre quelles sont les attendus et les besoins des personnes avec lesquelles on interagit. Chez nous, ça peut être nos intérimaires, nos collaborateurs, nos clients, nos fournisseurs. Et à partir de là, ça permet de construire une stratégie RSE, une démarche RSE qui est pas hors sol, qui est vraiment ancrée dans le quotidien et qui est aussi, à mon sens, doit être maillée avec la stratégie de l'entreprise. Parce que pareil, si ce sont deux démarches qui fonctionnent de façon parallèle et qui se rejoignent pas, ça ne peut pas fonctionner.
On va continuer d'expliquer les termes, les différents sujets qu'on va explorer. Antonin, une première question pour toi. Je rappelle que tu es directeur exécutif du cabinet LHH Recruitment Solutions.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut appeler un métier à impact?
Alors, le métier à impact, puisqu'on est dans le glossaire...
C'est ça, c'est le glossaire du podcast, après on déroule.
Ok, très bien. Donc c'est une terminologie qui va regrouper finalement plusieurs métiers qui vont toucher à la transition énergétique, à la responsabilité sociétale des entreprises, et puis à ce qu'on va appeler les métiers qui sont dans les entreprises dites à mission. Donc une entreprise à mission, et après je vous laisse tranquille sur les définitions, c'est l'entreprise à but lucratif qui poursuit une finalité d'ordre social.
Et alors Antonin, vous avez pris le pari chez LHH Recruitment Solutions de créer une division spécialisée sur ces métiers à impact. Est-ce une opportunité ou est-ce que c'est un pari? Dans quel objectif vous avez créé cette division?
C'est une conviction, surtout. Ouais. En fait, on a décidé il y a 3 ans au sein du cabinet de lancer une division qui s'appelle Engagement sociétal et intérêt général. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on a décidé de lancer une division spécialisée sur les cadres pour recruter tous les métiers dits à impact. On s'est beaucoup posé la question, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que les entreprises sont suffisamment matures? Est-ce qu'ils vont vraiment avoir des besoins pour travailler avec nous? Donc, on avait une conviction et on l'a confirmée en parlant à des DRH et à des directeurs généraux. En leur
ils
disant,
ont besoin de profils.
Alors, ils ont besoin, pour être honnête, puisque c'est le but de l'échange, ils ont encore beaucoup de questions et je pense ouais. qu'on va en parler dans les prochaines minutes. Mais effectivement, l'idée était plutôt de se dire, on se lance dans l'aventure avec eux et puis on va construire les organisations, les postes et les projections pour l'avenir ensemble.
Ouais. Alors, on va parler d'exemples très concrets de démarches RSE chez Lexmark, notamment chez Adecco, dans un second temps. Mais juste avant, pour toi, Antonin, quelle est la meilleure manière d'insuffler ces thématiques RSE en entreprise auprès des dirigeants ?
Alors déjà, les dirigeants sont conscients des réalités environnementales et sociétales qui peuvent les entourer
c'est déjà bien.
Dans la société.
C'est déjà bien d'être conscient.
Ce sont des êtres humains qui, comme nous, voient, entendent, débattent sur ces sujets. Le vrai sujet, c'est pour eux, en tout cas, de prendre conscience de la réalité de leur entreprise, réalité économique, réalité organisationnelle, et de se dire... Et ça, c'est toujours un questionnement pour bon nombre d'entre eux. Comment vais-je déployer ma stratégie RSE, développement durable, métier à impact, au sein de mon organisation, en fonction de mon business, en fonction de mes capacités d'investissement? Je pense qu'on en reparlera autour de la table. Et puis, surtout, comment j'embarque tout le monde pour la suite?
Donc, c'est quoi les sujets qu'ils doivent adresser pour entamer ces démarches RSE? Faut qu'ils répondent à quelles questions, à quels enjeux?
La première question, c'est est-ce qu'il y a des choses faciles à faire pour déjà amorcer? Alors, on a tous changé nos poubelles depuis quelques années. On travaille
des
tous...
Des quick wins, des premiers
voilà,
quick
wins. Voilà, des quick wins. On a tous travaillé sur notre parc automobile, on se parle d'immeubles connectés. Donc ça, c'est des sujets qui sont peut-être un peu plus simples à adresser, mais je laisserai ces dames poursuivre. Mais effectivement, il y a bien d'autres sujets qui doivent être portés, assumer
au cœur de la stratégie,
au cœur de la stratégie de l'entreprise, portée par la direction et puis ensuite déclinée à tous les niveaux de l'organisation.
Allez, on va raconter l'histoire de Sylvie. Tu es toujours avec nous, Sylvie.
Oui, on parlait justement d'être au cœur de la stratégie. Donc, l'histoire, c'est un terme un peu barbare, mais pour une entreprise, c'est de regarder sa matérialité. Donc, quels sont les impacts qu'elle va avoir? Certains, en fonction des métiers, seront plus ou moins environnementaux, sociaux, voire sociétaux.
Ouais.
C'est un peu ça aussi mon histoire avec Lexmark quand j'ai commencé.
En 99, je ne donnerai pas ton âge, mais tu es arrivée en 99 chez Lexmark.
Ouais, même un tout petit peu avant. Mais,
un tout petit peu
mais
avant.
Mais,
et avec
mais on
suite,
a commencé très tôt.
Ouais. Avec tout de suite l'idée de bâtir une stratégie RSE très en rupture avec vos concurrents, c'est ça?
L'enjeu, c'était, comme Lexmark était à l'époque monoproduit, fait de l'imprimante et de l'imprimante et de l'imprimante, on s'est dit, faut qu'on soit meilleur. Donc, on peut être meilleur en qualité, mais l'enjeu, ça a été, on avait un héritage culturel d'IBM où l'entreprise était déjà très orientée sur l'environnement. Donc, en fait, on a mis en place très tôt des programmes de collecte, de cartouches de consommables, notamment.
D'accord.
Qui ont fait que on s'est très vite différencié sur la démarche par rapport à nos concurrents. Et puis, un jour, on a mis en place aussi des exigences très strictes en termes de revalorisation matière au sein de nos boucles de recyclage. Donc, super, c'est très apprécié des clients. À un moment donné, quand même, cette démarche devenait extrêmement coûteuse. Et c'est là, on s'est dit, comment on peut être intelligent pour repenser l'éco-conception de nos produits pour qu'on puisse un petit peu étendre leur durée de vie, réutiliser plus souvent les cartouches de tonnerre. Donc, ça nous a amené dans une démarche complètement globale de réduction de l'empreinte environnementale sur l'ensemble du cycle de vie. Mais ça, au départ, ça s'est fait naturellement et en tâtonnant et en essayant de comprendre où étaient les impacts principaux pour nous en tant qu'entreprise, mais aussi les bénéfices essentiels pour les clients à qui on s'adressait.
Ouais, et je comprends que c'est également une stratégie de petits pas, comme l'illustrait Antonin, que d'avancer petit à petit vers une stratégie RSE. C'est bien ça?
Ah oui, c'est la stratégie des petits pas, mais une fois qu'on a bien appréhendé l'ensemble des impacts où ils se situent, là, on peut vraiment atteindre des économies d'échelle. C'est ce qui s'est passé pour nous sur nos programmes de collecte. Aujourd'hui, on est en capacité de récupérer plus de 50% des cartouches, par exemple, que l'on met sur le marché, ce qui est énorme, et d'en réutiliser également plus de 90% lorsqu'elles ont été collectées. Donc, c'est là où on commence à massifier et à faire une grosse différence sur le marché.
Ouais. Je vois Raphaël opiner du chef parce que nous sommes à distance mais on se voit, Raphaël, même si tu es arrivé il y a quelques années à ton poste chez Adecco, la démarche RSE date de plusieurs décennies chez Adecco, donc ça remonte, il y a un recul déjà, sur un versant plutôt social d'après ce que je comprends.
Exactement, c'est ce que je disais en introduction, c'est sûr que le secteur d'activité dans lequel on évolue impacte forcément le poids du corps et priorise entre guillemets les sujets, ça veut pas dire qu'on en laisse de côté, mais donne une couleur en tout cas à la démarche RSE. Et ouais. J'opinais du chef parce que je rejoins Sylvie quand elle parle de petits pas. Effectivement, faut être humble et se dire effectivement un pas après l'autre, on arrive à faire bouger les choses.
Est-ce qu'il faut choisir, Raphaël, entre le social, l'environnemental, ou est-ce que on peut tout mener de front? C'est une question que je me pose sincèrement.
Choisir aujourd'hui, je suis pas sûre que ce soit la bonne option. Ouais. Parce que nous, c'est ce qu'on constate. En tout cas, on voit bien que la performance économique est intrinsèquement liée à la performance sociale, à la performance environnementale. Ouais. Donc, on peut pas se dire, on fait l'un sans le des autres. Je pense que c'est vraiment un équilibre qu'il faut trouver sur ces trois dimensions, savoir où placer le curseur. Bon, c'est vrai que nous, au sein du groupe ADECO, étant donné que notre métier, ce sont les ressources humaines, c'est ce que tu disais, hein, effectivement, la démarche chez nous date d'il y a plus d'une trentaine d'années avec des premiers engagements autour de permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder à l'emploi et également aussi de structurer très fortement notre politique de lutte contre les discriminations. Donc ça a été vraiment ouais. ça le point de départ.
D'accord.
Et de fil en aiguille, on a consolidé notre démarche.
Ouais. Antonin, tu disais tout à l'heure que les dirigeants ont conscience de l'intérêt d'une démarche RSE. Encore faut-il l'illustrer, le prouver, ce lien entre performance économique, environnement, social. Il faut le prouver encore aujourd'hui ou est-ce qu'on est certain que c'est le cas?
Alors, on ne donnera pas de nom, évidemment, mais de grands chefs d'entreprise avec des idées nobles, engagées, ont finalement parfois été remerciés pour des défauts de performance au sein des organisations. Donc, il faut encore travailler sur... Alors, je ne sais pas si c'est prouvé, mais il faut encore trouver des liens entre la RSE, le business, la RSE. Maintenant, est-ce que l'un est une conséquence de l'autre? Sincèrement, je ne sais pas. Après, on est quand même dans un moment de vie un peu particulier. Des entreprises, aujourd'hui, le mot veut dire tellement de choses.
Oui.
Les entreprises sont reparties avec des niveaux de croissance incroyables, d'autres sont encore en reconstruction, d'autres essayent de se relever pour gagner des parts de marché et avoir des capacités d'investissement. Donc déjà, se remettre dans les sujets de la RSE, on ne part pas tous sur la même ligne de départ.
Bien sûr.
À côté de ça, il y a un enjeu qui est global, puisque tout le monde s'est saisi de ce sujet,
oui.
côté collaborateur, côté candidat, et puis aussi, c'est un problème de société. Donc, il faut que les entreprises arrivent à se mettre dans les meilleures dispositions pour s'en saisir. Ils ont quand même des réalités très différentes. Et en même temps, s'ils ne s'en saisissent pas, il y a d'énormes risques que j'imagine on évoquera, mais notamment des sujets d'attractivité ou de rétention.
Sylvie, chez Lexmark, vous l'avez prouvé, ce lien entre environnement, social, performance économique?
On l'a découvert, en fait, dans nos petits pas. Et l'histoire est assez incroyable, puisqu'en fait, le lien s'est fait naturellement entre l'environnement et le social, parce que c'est grâce, en fait, à nos programmes de collecte, où on s'est dit à un moment donné, mais si on fait de la réutilisation, on va les remettre sur le marché. Donc, ça ferait sens de les refabriquer, au moins sur la zone géographique où elles ont pu être collectées. Et c'est grâce à cette stratégie qu'on s'est rendu compte qu'en fait, là, financièrement, ça devenait effectivement plus intéressant que de produire nos cartouches en Chine. Donc ça a été une formidable aventure humaine aussi, puisqu'on a relocalisé des unités, des centres de fabrication, des unités logistiques. Donc on a pu créer de l'emploi en Europe grâce à cette aventure. Et donc en fait, à partir nous d'un programme environnemental, on a développé aussi un programme social.
Donc vous l'avez découvert en marchant, ce lien. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que vous n'avez pas eu besoin de faire la preuve du ROI quand vous avez entamé cette démarche avec des dirigeants, j'imagine, qui avaient la conviction chevillée au corps, pour le coup.
Alors, oui et non, parce que c'est pas parce que ça s'est fait naturellement qu'il n'y a pas eu besoin de faire un business plan et de le démontrer. Il y a eu des équipes qui ont dû quand même faire la démonstration que ça serait super bien de relocaliser en Europe. Donc, voilà, il y a quand même eu la démarche. Ça ne s'est pas fait 100% naturellement, mais disons que d'avoir déjà un poids très fort en termes d'unités collectées sur le marché a fait que ça faisait sens et qu'on a pu le démontrer bien plus facilement.
Ouais, avec la complexité de devoir présenter des ROI alors qu'ils ne sont pas encore là et que, j'imagine, il y a 20 ans ou il y a 15 ans, on était sur des supputations, des trajectoires, des anticipations qui n'étaient pas très concrètes à ce moment-là. Donc, pas facile de présenter un ROI lorsqu'il n'est pas encore très clair et qu'on a peut-être beaucoup d'incertitudes.
Oui, la gestion des risques, de toute façon, maintenant, elle fait partie intégrante des stratégies RSE, de la viabilité économique des projets. On voit bien, avec la crise Covid aussi, l'incertitude sur la disponibilité de certaines pièces détachées, etc., ça commence à impacter énormément les stratégies d'entreprise et on revoit des relocalisations. Oui.
Et ce que dit Sylvie est très juste, et je pense que c'est le message qu'il faut qu'on retienne, c'est que rien ne sert de courir.
Merci à tous, c'était la fin de ce podcast. Non, je plaisante, on va continuer un petit peu. on va partir à point. Plus sérieusement, excusez-moi.
Donc, on démarre comme ça. Très bien, parfait.
Quelles compétences et quelles soft skills sont nécessaires, Raphaël, pour travailler dans une démarche RSE? J'imagine qu'il faut aller taper aux différentes portes de l'entreprise avec un peu de résilience.
Vaste question, David. Pas mal de soft skills, effectivement, à mettre en œuvre. Je pense que oui, il faut avant tout être agile et polyvalent. Moi, j'aime bien l'image de Shiva. Parfois, j'ai l'impression d'avoir un peu 15 paires de bras parce qu'effectivement, l'idée, c'est on est là pour être facilitateur, de faire en sorte que les choses avancent. Et donc, il faut aller discuter, si je prends mon exemple, avec nos différentes filiales et puis avec les différentes fonctions support, avec les achats, pour monter une stratégie d'achat responsable, avec l'IT sur les sujets du numérique qui sont très prégnants. Donc voilà, il faut être un peu partout en même temps et puis accepter que les choses avancent à leur rythme aussi. Donc ouais,
ouais.
Agilité, résilience, ouais, c'est
et
pas
Shiva.
Mal.
Et Shiva, Sylvie, toi aussi, tu es une Shiva avec plusieurs bras.
Moi, je suis complètement d'accord avec Raphaël. Je pense qu'il faut aussi des compétences de communicant, d'être hyper persévérant, de savoir adapter son langage aux différentes audiences, donc aux personnalités. Donc, il y a un côté très humain et puis également au métier. On ne parle pas pareil à un ingénieur qu'à effectivement un responsable financier ou un directeur marketing. Et dans nos métiers en RSE, on est amené à être force de proposition et de conviction sur l'ensemble des métiers de l'entreprise. Ouais. J'aime bien l'image de Shiva, du coup, effectivement.
Et donc, du coup, comment vous identifiez les capacités shivesques des candidats que vous recrutez chez LHH Recruitment Solutions?
Déjà, le premier sujet, c'est qu'on a besoin de consultants qui sont expérimentés sur le métier.
Ouais.
Quand je dis le métier, c'est le métier de recruteur. Puisqu'on a en fait la chance, que je parle bien d'une chance, c'est d'aller chercher des compétences sur une pluralité de parcours, puisqu'on n'a pas de formation spécifique forcément très développée sur ces métiers. Et donc, tantôt, ça va être le secteur industriel qui va nous demander un mouton à 6 pattes ou quelqu'un à 5 bras, en l'occurrence, ou 6 bras, je ne sais plus, Shiva, mais qui va pouvoir avoir 10, 15 ans d'expérience dans l'industrie. Et puis qui finalement, avec sa connaissance, sa capacité à comprendre les environnements, sa capacité à s'adapter dans un environnement en changement et à proposer des solutions concrètes, va se saisir de ce sujet. Ça peut aussi être des gens qui viennent d'autres parcours, que ce soit dans le marketing, dans la finance, dans le commerce. Donc, pour le recruteur que je suis et pour l'équipe que nous sommes, pour être clair avec vous, c'est absolument passionnant parce qu'on travaille beaucoup en amont, en fait,
ouais,
avec les décideurs, en se disant de quelle organisation on a besoin, de quel profil concrètement on a besoin, on met quoi dans le descriptif de poste concrètement. Et puis, une fois qu'on a fait ça, et comment on va le trouver?
Ouais,
voilà.
Ouais.
Donc, c'est vraiment une réflexion, c'est passionnant. Et ça nous fait faire des rencontres qui sortent un peu de l'ordinaire des métiers dits traditionnels. Non pas que c'est moins intéressant, mais c'est vrai que pour les consultants qui travaillent là-dessus, c'est un bonheur. Et puis, on construit vraiment, je pense, la suite avec les entreprises, que ce soit sur des sujets de profil, mais également potentiellement de rémunération. Puisque vous imaginez bien, en fonction de la diversité des parcours, on va avoir une pluralité de niveaux de rémunération.
Ouais. Est-ce que, on va en parler tout à l'heure de la rémunération.
Avec plaisir.
Néanmoins, Antonin, est-ce que tu as le sentiment qu'on est face à une révolution qui va être encore plus rapide que la révolution digitale qui est intervenue dans les années 90? Peut-être parce qu'il y a une prise de conscience, quelque chose de l'ordre du vital, qui fait en sorte que ça va encore plus vite.
Je suis toujours nuancé sur le terme révolution,
okay,
parce qu'il sous-entendrait qu'on va être obligé de mettre des gens à terre pour prendre des décisions et les imposer. Donc, je parle plutôt de mouvement et d'une décision commune d'avancer sur des sujets qui nous concernent tous. Ça, oui. Moi, j'en veux pour preuve, on commence à avoir de plus en plus de volume sur ces métiers, que ce soit sur le développement durable et la RSE, et on travaille, j'en ai déjà parlé. Mais on a aussi, au niveau économique et financier, on se parlait de rapprocher la RSE et la finance, des signaux forts. Quand vous regardez aujourd'hui les entreprises, que ce soit des ingénieurs, des financiers, tout le monde commence à se poser la question, comment j'impacte positivement mon organisation, mon métier au quotidien? Et puis, vous avez d'autres sujets qui sont aussi intéressants. Dans la finance, vous avez aujourd'hui des fonds qui se développent sur les métiers divers. Donc, super intéressant, parce que ça veut dire qu'eux aussi pensent que c'est un levier de développement économique pour les entreprises et pour les pays. Et puis, à côté de ça, vous avez aussi, j'ai regardé par curiosité les dernières introductions en bourse de septembre à décembre, vous avez des boîtes qui sont dans l'épuration des biogaz, dans les molécules de substitution pour les industriels qui respectent l'environnement, dans la conversion d'énergie innovante. Alors, je ne suis pas un spécialiste, vous l'avez compris.
Mais tu as des occupations qui te permettent d'aller regarder les entreprises qui rentrent en bourse.
Ah, mais ça, c'est la chance du métier, David. Si un jour tu veux faire notre métier, tu verras qu'on a la chance de parler avec plein de décideurs tout le temps, à découvrir des boîtes. Et donc, effectivement, il faut une curiosité. Mais c'est surtout une réponse. Ça veut dire que, oui, ces sujets-là sont en train de prendre beaucoup, beaucoup d'importance. Maintenant, à quel niveau et pour quelle entreprise et sur combien de temps?
Ouais. Sylvie, est-ce que chez Lexmark, vous avez démultiplié les postes au cours de votre stratégie RSE entre les métiers d'un côté, les personnes qui travaillent sur la RSE de l'autre? Et je dis ça, Sylvie, je me permets d'illustrer mon propos en regardant un petit peu dans l'histoire de cette révolution digitale. Alors, même si tu n'aimes pas ce terme, Antonin, il est quand même largement employé. On va dire ce mouvement digital
c'est
des années 90.
C'est un peu différent parce que là, sans ordinateur, effectivement, plus difficile.
Plus difficile. À l'époque des années 90, on voyait des directions de l'Internet. On voyait des gens qui travaillaient sur ces sujets-là. Donc, c'était pas au cœur des métiers, le digital. C'est arrivé petit à petit. Comment ça a été vécu chez toi, Sylvie?
Alors, au départ, ça a suivi un peu la même courbe que le responsable Internet. Il y a eu effectivement un responsable développement durable. Et moi, déjà, il y a une quinzaine d'années, je disais que mon objection, c'est de faire disparaître mon poste. Donc, en fait, l'objectif pour nous, c'était de responsabiliser chaque entité, chaque département, chaque personne, pour qu'en fait, ils construisent et capitalisent sur leur propre expérience. Par exemple, moi, je suis directeur logistique. Comment je peux faire pour rendre ma logistique plus verte? Je suis ingénieur. Comment je peux contribuer pour que Lexmark ait des produits qui vont durer plus longtemps et vont être éco-conçus. Je suis responsable matière, etc. Et ça a été toute notre stratégie. Donc, je dirais qu'au début, on n'a pas explosé le nombre de postes relatifs à la RSE. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a une accélération des enjeux et des attentes clients également. Donc, c'est l'ensemble des parties prenantes qui nécessitent que dans le pilotage de cette activité, on vienne encore plus en soutien auprès de chaque département et qui nécessitent des expertises avec plus de métiers. Alors, pas forcément des métiers et des jobs placés en France ou en Europe. Ça peut être dans les équipes de support. Nous, on en a beaucoup, par exemple, aux Philippines. Mais ce qui est certain, c'est que oui, il y a des créations de postes en ce moment.
Des créations de postes, Antonin, est-ce qu'il y a des projections sur cette dynamique créatrice d'emplois en France?
Il faut se rapprocher de gens qui font des études, hein, c'est-à-dire l'Observatoire de la RSE, l'ONU, tout ce qui est agent de transition écologique. Alors, certains disent qu'il y a déjà 4 millions de professionnels qui travaillent dans l'économie verte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les métiers traditionnels qui sont verdissants. Et puis, les nouveaux métiers, ça, c'est 4 millions. Et on projette, a priori, 18 millions de nouveaux emplois d'ici 2030 au niveau mondial. Donc, c'est colossal.
Colossal. On va voir quel est l'impact de cette démarche RSE vue par les cadres tout de suite. Raphaël, tu es aux avant-postes de cette démarche chez Adecco. Quelle est la prise de conscience que tu peux observer de la part des collaborateurs, des collaboratrices? Qu'ils ont une prise de conscience vraiment forte sur ces sujets?
Alors, c'est un peu paradoxal, peut-être, ce que je vais dire. On voit, il y a beaucoup d'articles, beaucoup de littérature et d'études qui sont sorties, notamment pendant la pandémie, à dire, aujourd'hui, les consommateurs, les collaborateurs attendent et sont très exigeants vis-à-vis des marques et vis-à-vis de leurs propres employeurs pour voir comment l'employeur s'engage en matière de RSE. Ça, je pense que c'est un fait. Maintenant, moi, ce que je constate, c'est de se dire, dans mon entourage, au niveau de mes collègues, il y a énormément de gens qui sont mobilisés à titre individuel sur tous ces sujets parce que ça nous touche, ça dépasse le cadre professionnel. Mais moi, j'ai le sentiment qu'à l'intérieur de l'entreprise, ou quand on passe la porte de l'entreprise, il y a une frontière qui se crée, il y a un certain attentisme de se dire, qu'est-ce que ma boîte va faire? Et après, je vais voir si j'agis. Ce qui serait assez intéressant et ce qui serait assez vertueux, ce serait qu'on arrive à embarquer et à transformer l'engagement individuel que tout un chacun peut avoir, chacun à son niveau, et de le transformer dans l'entreprise aussi. Là, ça créerait une dynamique absolument incroyable. Mais je pense qu'on est à un point de bascule. Ça va s'opérer, mais le changement côté collaborateur n'est pas encore très flagrant. Alors que d'un point de vue marque employeur, à mon sens, les engagements RSE qu'une entreprise peut démontrer aujourd'hui, parce qu'il ne s'agit pas de faire du greenwashing, mais bien démontrer, je pense que ça peut être un critère assez fort pour rejoindre une entreprise.
Justement, sur la marque employeur, sur l'interne, Sylvie, qu'est-ce que tu observes de cette démarche sur peut-être la fierté d'appartenir à Lexmark de la part des collaborateurs et collaboratrices?
Je pense qu'on ressent une facilité dans la rétention justement des talents au sein de l'entreprise quand une démarche RSE forte. Il y a même une demande chez nous très forte pour qu'on aille toujours plus loin de la part des commerciaux. Essentiellement en Europe, on a beaucoup de commerciaux plus que des fonctions support, et c'est eux qui sont à l'origine de cette demande et qui portent cette fierté auprès de nos propres clients.
Ouais. Avec une quête de sens, enfin moi j'observe, moi, de mon viseur qui est pas forcément le plus large, vous avez certainement un observatoire plus important, mais on voit des cadres qui sont en quête de sens et qui ont envie de changer de métier pour avoir un sens. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces cadres, Antonin?
on leur dit déjà que sur leur métier, ils peuvent déjà faire quelque chose.
C'est ça.
On n'est pas obligé de claquer la porte de l'entreprise parce qu'on a identifié qu'il manquait des choses. Les entreprises attendent aussi des prises d'initiative de la part des collaborateurs. Et d'ailleurs, la co-construction est super importante dans cette quête de sens, de développement et d'aller chercher tous ces sujets super importants pour notre planète, hein, au-delà de l'entreprise. Il faut le faire ensemble. Mm. Donc, si on a des gens qui ont des prises d'initiative, il faut surtout tendre le micro. Après, il y a aussi des entreprises qui sont dans des réalités où il y a peut-être aussi un moment de vie qui est plus compliqué. Il faut l'accepter. Mmh. Je pense qu'on n'a pas de chasse aux sorcières à faire sur ces sujets. On doit plutôt comprendre la réalité de l'entreprise et puis voir à quel niveau on peut impacter l'entreprise dans un premier temps et de voir ensuite. Et puis le dernier point, il y a plein de prises d'initiatives au quotidien sur ces sujets par plein de collaborateurs. Il faut identifier ces pépites, ces gens de talent ou ces gens qui ont l'énergie pour le porter. Et ça, c'est aux managers, c'est aux directions d'incarner certainement, mais surtout de les accompagner, de les identifier, de les mettre en avant en se disant, bah, si toi, tu peux nous aider, mets-toi devant, aide-nous, tire la corde, embarque-nous et ça va bien se passer et on fera certainement des choses incroyables qu'on n'avait même pas imaginées en début d'année.
Et d'avoir une stratégie RSE forte, est-ce que ça aide au recrutement concrètement? Les candidats demandent vraiment s'il y a une politique RSE
Les candidats, ils sont pragmatiques. Ils sortent de 2 ans de crise sanitaire mondiale. La première chose, c'est est-ce que le job est intéressant? Oui. Est-ce que mon manager, je m'entends bien avec lui? Et est-ce que la rémunération correspond à ce que j'ai envie de faire? Donc, ils sont comme nous, comme vous. On a tous besoin, à un moment, de sortir de cette crise.
C'est bien de ne pas avoir de langue de bois et d'être très concret et très réel.
Si vous
voulez
une langue de bois, on coupe et puis on recommence ensuite.
Non, c'est très bien.
En revanche, ce qui est vrai, c'est que désormais, c'est un point d'attractivité. Oui. C'est-à-dire que, à contrario, la société qui ne se saisit pas du sujet, qui communique pas dessus, qui a pas des gens identifiés dans l'organisation, qui font des choses pour bouger le monde, alors à l'échelle de l'entreprise, mais parfois plus globalement à l'échelle d'une région ou sur une population donnée, ça peut être un frein, voire entre deux opportunités professionnelles, le candidat peut se laisser tenter par l'autre aventure pour des salaires, des positionnements équivalents. Donc, c'est pas encore le critère premier. Mais ce qui est certain, c'est que ça compte dans l'équation.
Ça compte dans l'équation. On va parler de l'avenir des métiers autour de ces sujets de RSE avec tous les trois. C'est parti. La question est, quel avenir pour les métiers actuels dans cette trajectoire de RSE, cette trajectoire verte? Est-ce que ça va créer des nouveaux métiers, Sylvie?
Moi, je suis pas responsable RH. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a effectivement une complexité dans les métiers aujourd'hui où je pense qu'on peut plus ignorer la prise en compte des aspects développement durable dans chaque métier. Donc déjà, il y a cette partie-là. Et puis, il y a aussi la création de nouveaux métiers. Aujourd'hui, on ne sait pas, quand on voit comme l'explosion du numérique qui a certes un impact environnemental, mais également tous les bénéfices que ça a pu apporter à l'ensemble des secteurs pour se transformer, il y a des nouveaux métiers qui n'existent pas aujourd'hui et qu'on n'imagine même pas qu'ils vont se créer, c'est sûr.
Raphaël, toi aussi, tu as le même sentiment qu'il y a des nouveaux métiers qui vont se créer. Peut-être que tu en as des exemples?
Oui, indubitablement. Oui, je rejoins complètement ce que dit Sylvie. Des métiers dont on connaît pas encore, il y en a qui commencent aussi beaucoup à apparaître en ce moment. Moi, je le vois parce qu'il y a un sujet qui m'occupe pas mal en ce moment, qui est le sujet de la décarbonation de nos activités. On voit beaucoup de métiers très pointus, très spécialistes, par exemple d'auditeurs qui deviennent spécialistes des enjeux climatiques, des profils d'ingénieurs aussi, et des profils aussi qui pouvaient être plus généralistes, qui se spécialisent sur la RSE, comme ça a pu être mon cas. Donc oui, clairement, on est à l'aube de quelque chose d'assez énorme, je pense.
Antonin, des nouveaux métiers et aussi des métiers qui vont se transformer.
Mais oui, quel bon moment. On est en train de vivre tous ensemble puisque on a besoin de changement, on a besoin de projection et tous nos métiers ont donc un socle de compétences qu'on va pouvoir servir au profit de cette cause des métiers verts et de l'engagement. Donc, ouais, c'est vraiment une nouvelle page avec les mêmes personnes et puis avec de nouvelles personnes. Donc, je pense que ça peut être vraiment une réponse à l'emploi qui pourrait être intéressante. Et puis, ça va aussi dimensionner, je pense, les postes qui étaient plus traditionnels parce qu'on va commencer à avoir un impact aussi aux yeux des autres à l'extérieur quand on parle de son métier. Donc, moi, je suis ravi qu'on en soit là. J'aimerais qu'on aille toujours un peu plus vite. Mais cette théorie des petits pas, il faut qu'on l'accepte et qu'on continue tous ensemble.
Tu parlais tout à l'heure de la rémunération, qui est un sujet important lorsqu'on rentre dans une nouvelle entreprise. Si on veut être très pragmatique, Antonin, combien on gagne lorsqu'on travaille dans ce domaine de la RSE? Est-ce qu'on gagne plus ou moins que dans d'autres directions de la communication de...
Alors, j'aurais pas de scoop. C'est-à-dire que les gens, si vous êtes en ce moment connectés avec vos stylos, prêts à noter la rémunération pour aller voir votre patron, je suis navré. On a une diversité très importante de niveau de rémunération puisque la maturité des entreprises va faire le poste. Quand vous êtes dans une société industrielle qui a des enjeux très complexes et qui va chercher un ingénieur qui a déjà quelques années d'expérience, voire beaucoup, parce qu'il a un positionnement dans l'entreprise, une réflexion, une capacité de faire bouger les choses, vous n'allez pas le payer de la même façon que si vous êtes une entreprise qui démarre un environnement RSE, vous allez avoir une tendance naturelle à prendre quelqu'un qui démarre, qui a une forte sensibilité, qui a peut-être des actions associatives ou une présence dans cet écosystème. Donc, ça va dépendre. Et encore une fois, moi, je suis un partisan de complexifier les descriptifs de poste parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui ont envie de se lancer. Mais comme on est plutôt moins 10 ans pour le moment sur les niveaux de rémunération, voilà, il faut bousculer les choses et aller chercher des gens de très haut niveau qui vont peut-être modifier les habitudes ou en tout cas apporter vraiment une plus-value à l'entreprise. Et certainement, je suis d'accord avec Sylvie, des bénéfices qu'on sous-estime pour le moment.
Antonin, il y a des théories autour de l'écologie, du social, qui tendent vers la décroissance. Est-ce que les candidats doivent s'attendre à voir leur rémunération baisser dans un but vertueux, écologique?
La question n'est pas très sympa parce que j'ai deux spécialistes à côté de moi qui vont répondre après. Donc, en fonction de ce que je vais dire, je risque de me faire challenger.
Tu peux dire Joker et on peut passer sur Raphaël
non,
et Sylvie.
Non, je vais assumer. Et puis après, elles me diront que j'ai tort. C'est pas grave, on peut faire deux heures de débat. Moi, je pense que c'est un investissement pour l'entreprise. Je donnais l'exemple des voitures où on se dit on va changer le parc auto, donc on va prendre des voitures un peu moins bien parce que ça coûte plus cher. Je pense qu'au contraire, il faudrait mettre de l'argent en disant pour des voitures équivalentes, vous avez une voiture hybride ou une voiture comme ça et tout le monde prendrait l'hybride. Donc, c'est pas une politique minimum. Il faut aller un peu plus loin. C'est pareil sur les éléments de rémunération, c'est pareil sur les projections. Moi, je crois vraiment que c'est un investissement. Il faut bousculer les entreprises et aller chercher des top guns, des gens brillants qui veulent y aller et ça se paye.
Ouais.
Ça se paye.
De la décroissance, Raphaël, dans la rémunération pour plus d'empreintes écologiques ou pas du tout?
Bon courage, Raphaël.
Merci pour la question. Je la prends. Décroissance, je ne sais pas. Après, c'est ce que Sylvie et Antonin disent très bien. Ça dépend beaucoup du parcours du candidat et du niveau de maturité de l'entreprise. Après, est-ce que ces investissements et le fait qu'on fasse un bon chiffre d'affaires à côté sont antinomiques? Je sais pas, j'espère pas. En tout cas, on voit aujourd'hui, par exemple, les dispositifs tels que ceux de l'entreprise à mission, qui justement visent à réconcilier un peu ces deux dimensions et de se dire aujourd'hui, c'est pas un gros mot de dire qu'une entreprise est là pour faire du profit, hein, c'est une de ses finalités, mais c'est plus aujourd'hui d'essayer de se dire, c'est comment on le fait ce profit finalement, et je pense qu'on peut le faire de façon soutenable, responsable, durable. Et donc non, à mon sens, on peut, j'espère, réussir à réconcilier ces différentes notions entre elles.
Ouais. Et ça pose la question des entreprises à mission qu'on évoquait en début d'émission. Il y a des entreprises qui se créent sur ces fondements-là d'avoir une empreinte vertueuse tout en faisant du chiffre d'affaires et du profit.
Oui, oui, absolument. Après, il y a aussi des indicateurs qui professionnalisent ces métiers. Enfin, on l'a vu avec le digital, à partir du moment où vous commencez à faire des formations, à partir du moment où vous commencez à mettre des certifications sur des compétences, ça prend de la valeur. Et donc, je pense que Raphaël, Sylvie vont voir au fur et à mesure dans leurs équipes des gens arriver avec de plus en plus de connaissances, de plus en plus de projets, d'expériences, d'apprentissage. Donc, tout ça a un prix.
Ouais. Sylvie ?
En fait, je voulais juste aussi revenir sur un point par rapport aux compétences et également sur les tendances. Je pense qu'aujourd'hui, on a pris conscience que la ressource, elle n'est pas gratuite. Et je dirais que pour les métiers de la RSE et pour les compétences, elle nécessite justement un investissement, et voire un surinvestissement. Donc, on va voir effectivement arriver sur le marché des gens avec une passion, des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances, même sur des sujets très pointus. Indubitablement, on est obligé de passer par ces étapes-là. Il y a une professionnalisation également de la RSE qui est de plus en plus pointue, qui va servir à des audits, qui va servir à des évaluations financières ou extra-financières des entreprises. La tendance à les lancer autour de ces sujets-là, on ne peut pas l'ignorer.
Et alors Sylvie, s'il y a des sociétés qui démarrent une stratégie RSE ces jours-ci, en tout cas chez Lexmark et chez Adecco également, vous ne découvrez pas ces stratégies RSE, vous avez un vrai recul. Comment vous voyez la suite de cette tendance, de ces métiers? Et pour vous, chez Lexmark, Qu'est-ce qui va se passer?
Ce qui va se passer, ce qui est en train de se créer aujourd'hui, c'est des comités environnementaux, sociaux, de gouvernance qui regroupent l'ensemble des directions métiers de l'entreprise, qui eux-mêmes, au sein de chaque direction, nomment des représentants qui vont coordonner le pilotage des avancées environnementales et sociales au sein de leur propre direction, avec, si besoin, en fait, de l'embauche de compétences métiers très spécifiques. La tendance, elle est là. Nous, on l'a déjà créé chez Lexmark et je pense qu'au sein de nombreuses entreprises, ça va être une nécessité.
Raphaël, c'est quoi le pas d'après chez Adecco?
Alors déjà, je pense qu'il est important, c'est de savoir capitaliser sur ce qu'on a déjà pu faire, hein, même s'il y a des entreprises qui aujourd'hui se lancent ou peut-être structurent plus des démarches, ça ne veut pas dire qu'elles faisaient pas du tout de RSE avant. Donc je pense que ce qui est important, c'est d'adopter une démarche d'amélioration continue pour se dire comment je fais pour être encore meilleur, plus performant sur ces sujets, plus engagé, aller plus loin. Donc nous, forcément, ça va être énormément sur les problématiques sociétales, la sécurisation des parcours, assurer une meilleure employabilité de nos candidats, etc., etc. Il y a bien évidemment, on peut pas le laisser de côté, personne ne peut le laisser de côté, que ce soit les industries, mais aussi les entreprises de services comme nous, les enjeux environnementaux, les enjeux climatiques notamment, qui vont vraiment, je pense, occuper de plus en plus les équipes et à mon sens renforcer les équipes RSE demain, parce que ça c'est encore une fois une problématique qui nous dépasse tous et il faut qu'on s'en empare, chacun a sa pierre à apporter. Et au-delà de ça, effectivement, s'il y a des entreprises qui sont aujourd'hui pas encore très structurées, je pense que c'est véritablement le bon moment de le faire, parce qu'il y a pas mal de réglementations qui sont en train de se mettre en place au niveau français, au niveau européen, autour de la biodiversité, autour de la taxonomie, etc., etc. Donc, pour pas se faire rattraper d'un coup par une vague réglementaire qui serait énorme, je pense que c'est important de se structurer et de prendre de l'avance pour anticiper tout ce qui est en train d'arriver. Il y a beaucoup de choses qui arrivent là.
Pour terminer, Antonin, est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais adresser aux candidats, aux recruteurs qui seraient en train de réfléchir à intégrer ces métiers de la RSE dans le cœur de leur stratégie?
Le premier message, c'est parlez-vous. Il est simple, il est terre à terre, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les entreprises, que ce soit en France ou à l'international. Et Raphaël, avec toute son humilité, ne le dit pas, mais elle prend aussi part au niveau du groupe Adecco, au niveau mondial, à beaucoup d'initiatives. Et donc, ça veut dire qu'en fonction des pays, en fonction de la taille des business, il se passe plein de choses. Donc, commençons par déjà passer des coups de téléphone, se rencontrer, peut-être se coordonner pour se dire, attendez, que sait-on faire? Et comment on peut l'appliquer concrètement dans mon business ou mon activité? Et puis la deuxième partie, c'est continuons de travailler au sein des organisations à bousculer des lignes progressivement pour réussir à faire un moment que ce sujet ne soit plus une révolution, mais simplement une réalité.
Ouais, pour les candidats, ce serait de se former, de se renseigner sur ces sujets.
Il faut. Ouais. Il faut, parce qu'on est parti pour travailler un petit moment. Donc, il faut justement pouvoir se dire que ça peut être aussi une évolution naturelle. Et puis, ça va aider les entreprises à se bousculer, parce qu'à l'échelle d'un groupe, vous imaginez que si on prend chaque métier, chaque niveau d'expérience, chaque formation et qu'on dit il faut faire une formation là-dessus, on va pas s'en sortir. Donc, voilà, travaillons ensemble, continuons. Et moi, je suis convaincu qu'on va encore en entendre parler pendant les prochaines années. Mais j'aimerais vraiment qu'on aille un tout petit peu plus vite sur le fait de se dire que c'est un principe de réalité, donc on doit l'assumer.
On n'amène personne à 130 km/h sur l'autoroute en l'emmenant sur un vélo.
Oui, alors oui, c'est ça. C'est que si vous voulez à un moment foncer tête baissée pour aller vers la RSE, donnez-vous les moyens, parce que si vous n'avez pas le bon moteur avec la bonne carrosserie hybride, évidemment, ça va être difficile.
Merci Antonin, je rappelle que tu es directeur exécutif chez LHH Recruitment Solutions.
Merci David.
Merci beaucoup Sylvie Thomas d'avoir été avec nous à distance. Je rappelle que tu es directrice RSE et des affaires publiques chez Lexmark sur la zone Europe, Afrique et Moyen-Orient. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et merci Raphaël Lommel d'avoir été également avec nous à distance. Tu es responsable RSE du groupe Adecco France. Merci beaucoup.
Merci à toi, c'était un plaisir.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et pour ne rien rater de ces échanges passionnant, on vient de le vivre encore une fois dans ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des prochains épisodes de Conversation RH et découvrir les épisodes qui ont déjà été sortis. À très bientôt sur Conversation RH, le podcast d'échanges éclairés entre professionnels RH. À très bientôt.